Ça va bien ce matin? Oh, ben. Non, merci pour ce beau chant. Dieu fidèle, hein? On l'a chanté, Dieu fidèle. Dieu est fidèle dans la détresse, Dieu est fidèle dans l'abondance. Cette garde des dieux en première place dans nos vies, qui est le défi que nous avons tous. Les anciens m'ont demandé dans quelques mois de préparer quelque chose qui va être ce matin. Je n'ai pas la prétention d'éplucher le sujet A à Z. J'ai 4 pages de notes d'exégèse ici en bas pour ceux qui veulent aller plus loin que la prédication. Mais j'aimerais qu'on se comprenne ensemble ce matin. Je vais mettre la nappe. Je ne mettrai même pas la table. Je vais mettre une nappe. Imaginez une nappe, là, où est-ce qu'on va mettre des choses dessus. Je ne l'ai pas emmené, là, ce matin, là, mais... est-ce que quelqu'un a déjà regardé le mot « serviteur » dans Google? Et regardé des images d'un serviteur? Savez-vous ce que c'est, un serviteur? D'après vous autres? Vous en avez tous dans vos armoires. Ouais. Souvenez-vous, là, de ces racks à bonbons qu'on avait autrefois, là, à 3 étages, là. On mettait ça sur la table, on mettait du chocolat en bas, du marshmallow dans le milieu, puis en haut, on mettait du sucre à la crème. Et cet instrument, croyez-le ou non, s'appelle un serviteur. Il est utile à quelque chose. C'est merveilleux même. J'avais pensé à le mettre, mais je ne voulais pas me perdre dans cela. Dans le peu de temps que j'ai, je vais essayer de réfléchir avec vous, partager avec vous la notion de diaconomie. C'est quoi ça? Ah oui, diaconie, c'est quoi ça? Diaconie. Wow! Ça vient d'où, ça? Ça vient de diaconat. Dans la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est parce qu'on est en train de... On est en reconstruction, n'est-ce pas? Physique et spirituelle. On est en train de reconstruire l'Assemblée du Cap de la Madeleine. On est en train de réfléchir pour une vision long terme, court terme. On est en train de voir ensemble notre direction. Stéphane l'a mentionné dans l'annonce tout à l'heure. Nous avons comme but une église, une assemblée, une église qui est tournée vers la communauté. Et dans cette communauté, il y a des gens qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On a besoin de rentrer dans la communauté comme chrétiens, sortir de notre tour forte, de notre île, de notre grande montagne sainte, et expérimenter ce que Jésus a dit dans Jean 17, « Père, je ne te prie pas des ôter du monde, mais les préserver du mal. » Et notre but, c'est de donner l'opinion de Dieu, donner un son de cloche pour Dieu devant ceux qui ne le connaissent pas. De la manière qu'on va vivre, les choses qu'on va faire, notre langage. Et nous allons être ensemble une petite lumière, chacun dans notre coin. Et ensemble, collectivement, on va être un flambeau qui va éclairer ce monde qui a tant besoin d'une bonne nouvelle. On a passé la semaine avec des mauvaises nouvelles. C'est terrible ce qui se passe. Un peu partout dans le monde, si vous écoutez ça le moindrement, vous allez dire « Wow! » Il s'en passe des affaires. Mais comme Église, comme Assemblée, pour nos contemporains, quelle est notre vision? Quel est notre ordre de marche? Quelle est la bannière sur laquelle on va aller dans le monde des ténèbres, annoncer cette bonne nouvelle? Obéir à la grande commission du Seigneur Jésus qui dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que vous avez prescrit. » Alors, faire des disciples, c'est une tâche qui est confiée à l'Église jusqu'au retour du Seigneur. J'aimerais, comme préambule, vous parler de l'intelligence de Dieu. Dieu, il sait ce qui s'en va. J'espère que je n'ai pas argumenté avec vous là-dessus. Faites un signe de tête, vous savez ce que Dieu s'en va. Okay. Lui, il sait ce qui s'en va. Des fois, nous autres, on est perdus dans ça, là, mais Dieu sait ce qu'on s'en va. Donc, comme préambule, je voudrais tout simplement dire que Dieu n'est pas dépassé par tout ce qu'on voit des nouvelles, là. Les guerres, les bruits de guerre, le terrorisme, la haine dans le monde. Et pourtant, Dieu, dans son intelligence, nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et ces autorités, un jour, vont avoir à rendre compte de leur responsabilité d'autorité. L'autorité a été transférée dans trois sphères. Elle est l'autorité parentale, l'autorité civile, l'autorité spirituelle, qui ont une portion d'autorité, mais pas toute autorité. Le seul qui a toute autorité, c'est le Seigneur Jésus, qui va nous dire dans Matthieu 28, 18, hein, c'est clair, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir ou toute autorité, tout pouvoir, Dieu est tout puissant, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Là, les pessimistes là, qui regardent les nouvelles et qui ont envie de se jeter à l'eau, arrêtez. Là. Dieu sait ce qui s'en va. Des fois, nous, on voit de près, hein? Mais Dieu voit, lui, d'une éternité à l'autre. Il n'est pas dépassé par rien. Dieu a un plan. Et Dieu, un jour, va accomplir le destin de l'humanité, le destin de l'univers. Et en attendant, nous, l'Église, nous sommes appelés à vivre sous une autorité civile, que ce soit une monarchie, que ce soit le socialisme, le capitalisme, peu importe le style d'autorité civile, on est appelé à vivre sous cette autorité. Et mes amis, laissez-moi vous dire qu'au premier siècle, lorsque le Nouveau Testament a été écrit, il y avait une autorité romaine. Il y avait des esclaves. Les gens se faisaient acheter pour travailler comme esclaves. Et l'Église a grandi dans ce contexte. Et d'ailleurs, c'est une des preuves que la parole de Dieu va dans toutes les époques, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, parce que c'est la parole de Dieu. L'Église marche dans ce monde en professant, en étant militant, en souffrant, mais elle est une lumière pour Jésus. Donc, ça, c'est ma toile de fond de cette argumentation de qui nous sommes. Cette notion dans la Nouvelle Alliance. Voyez-vous, on a parlé ce matin dans Hébreux un peu, la Nouvelle Alliance, en fin de compte, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, révolutionnaire. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Lorsqu'on regarde l'ancienne alliance et tout le système des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, les sacrifices qui étaient offerts, on a vu ce matin ces choses-là. Puis en passant, c'est pas arrangé que le gars des vues. Vous savez, Jésus arrive dans une époque où les gens sont tellement habitués de faire des choses à leur manière. Nicodème arrive, hein, vous savez, cette belle conversation avec Nicodème. On voit la religion officielle de l'époque, hein, les pharisiens, les sadducéens, contre le Seigneur Jésus. Vous allez déranger notre système. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. C'est qu'on est passé de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, à la Nouvelle Alliance. Dans son sein. Et là, c'est important de saisir cela comme Église. Qui nous sommes? Vous, au contraire, nous qui avons accepté le Seigneur, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce que nous sommes, nous, enfants de Dieu. Donc, rien que par ce petit verset, ça détruit tout le système judaïque. Ce système de faire des rituels, de répéter le sacrifice de Jésus-Christ pour avoir le pardon des péchés. Ou répéter l'emblème, que ce soit l'agneau, comme on a vu. Ça peut être toutes sortes de sacrifices. Le sang est versé, ça couvre le péché, ça ne l'ôte pas. Et seul Jésus enlève le péché. Mais qui nous sommes? Nous sommes une race royale, une nation sainte, un saint sacerdoce. Un sacerdoce royal. Vous savez, tout ça, ça donne une raison d'être. Et la raison d'être, elle est là. Et si on n'accomplit pas le pourquoi nous sommes sur cette planète Terre, on manque le bateau, comme assemblée, comme église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que on représente, nous, hommes et femmes, nous représentons ce que Dieu veut présenter à ceux qui ne le connaissent pas. Et nous ne présentons pas un système religieux tricoté par les hommes. On ne présente pas un système évangélique, théologique. On présente une personne, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a confié un message. Parce que nous sommes de ceux qui sommes le peuple de Dieu. On n'était pas un peuple avant, mais maintenant on est un peuple. On est un peuple. On a obtenu miséricorde. Et nous sommes qui nous sommes. Et frères et sœurs, ça c'est la nappe sur laquelle on va mettre les serviteurs avec les bonbons. Le sacerdoce, vous savez, on va en parler un peu, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, il y a un 2 de trop, là, j'excuse. Si on regarde Hébreux 7, 15, et un matin, on a presque tout lu mon affaire, je ne répéterai peut-être pas tout. 7, 15, laissez-moi vous lire cela. Cela devient de plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi des ordonnances charnelles, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui a été rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et lorsqu'on va dans le verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et Maurice en a parlé. Elle n'était pas parfaite, l'alliance de l'Ancien Testament, elle couvrait les péchés. L'alliance, la nouvelle alliance, c'est celui qui enlève le péché, et c'est par le sang de Christ. Le verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » C'est ainsi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Jésus est garant de cette nouvelle alliance. Maintenant, je vous pose la question, c'est quoi ça un sacerdoce? Tu sais, on ne va pas à l'épicerie et on dit pas au gars, « Ben, tu me donnais un sacerdoce qui paye 5 livres, puis on va l'emmener chez nous manger. » Non, non. C'est quoi un sacerdoce? Bien, le système catholique dit qu'on est sacerdoce. Les mormons disent qu'on est sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le pouvoir de faire des prêtres et des prêtresses. Le sacerdoce, c'est ce droit au roi des rois, au seigneur des seigneurs, de faire un royaume de sacrificateurs, de prêtres et de prêtresses pour lui. Il n'est pas transmissible. Le verset 24 va nous dire qu'il n'est pas transmissible. Même s'il y a eu un grand nombre dans l'Ancien Testament, c'est là qu'un peu la faille, si on ne comprend pas tout le système de l'Ancien Testament, on apprécie moins la Nouvelle Alliance. Parce qu'on aurait vu ça un matin, arriver tout avec nos bœufs, puis les cochons, puis les agneaux, tout mettre ça dans des plats. Voyons. Mais il y a eu des sacrificateurs un grand nombre, puis ils sont morts. Ils n'étaient pas permanents, mais Jésus, lui, qui est permanent, quoi? Possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est vraiment le bon mot, là. Ça ne se transmet pas à un autre, ce pouvoir de faire des prêtres. C'est Dieu seul qui fait ça. Et c'est important pour nous de savoir qui nous sommes. Hommes et femmes, nés de nouveau, nous sommes des prêtres et des prêtresses. Plus de distinction entre clergé et laïc. On est des frères et des sœurs ensemble. On est des enfants de Dieu. On est de ceux qui sont en train de marcher pour la gloire de Dieu. Apocalypse 1:6 nous dit « Des sacrificateurs pour Dieu, son Père. » Et qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il faut savoir, frères et sœurs, qui nous sommes, hommes et femmes, pour mettre la table, pour être des serviteurs ensemble pour la gloire de Dieu et accomplir la grande commission. Plus de distinction entre les humains qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont saisi l'Évangile, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Dans Galates 3, chapitre 3. Galates veut nous dire, oubliez le système où ce que il y a les papes en haut ou les dirigeants en haut qui sont là, puis vous autres, vous êtes juste des simples laïcs. Le Seigneur a renversé tous ces murs-là. Il a renversé les murs raciaux, linguistiques. Il a renversé ces murs entre l'homme et la femme. Il a fait de l'homme et la femme une équipe pour sa gloire, des prêtres et des prêtresses pour Dieu. Et cela nous démontre, en fin de compte, qu'on est dans une autre époque. Plus de distinction, car nous sommes baptisés dans un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. En passant, c'est le seul verset doctrinal qui parle du baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Vous avez tous été baptisés dans un seul corps, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu avec un mandat. J'ai mis quelques affirmations, puis c'est plus expliqué dans les pages un peu. Si on regarde l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est une autre planète complètement différente. Jamais dans l'Ancienne Alliance, chaque croyant est identifié par le sacerdoce. Jamais. Il y avait Aaron, hein? Il y avait la ligne d'Aaron, il y avait les Judas qui étaient choisis pour être parmi les 12, on appelle la deuxième couche d'élection. Jamais. Mais dans la Nouvelle Alliance, wow! Nous le sommes. On est, nous, les croyants, identifiés à la sacerdoce, c'est-à-dire nous sommes des prêtres et des prêtresses par celui qui possède le pouvoir de faire des prêtres et des prêtresses. Jamais dans l'Ancien Testament, le croyant est habité par le Saint-Esprit en permanence. Jamais. Dans l'Ancien Testament, l'économie de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit vient sur les prophètes pour accomplir une mission ou sur un individu, homme et femme, en passant. Et Dieu les utilise pour sa gloire. C'est l'ancienne alliance. Mais wow! La nouvelle alliance! Wow! Hey, on a le Saint-Esprit en permanence en nous. Dieu habite en nous. On est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Wow! Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oui, même quand vous allez aux toilettes, Dieu est en vous. Pensez à ça, c'est capotant. Le Saint-Esprit est là. Éphésiens 4:30 va nous dire quoi? Hein? N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Scellés du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, qui ne connaissait pas ça? Mais dans la nouvelle alliance, hommes et femmes, Saint-Esprit permanent dedans. Dans l'ancienne alliance, jamais dans l'ancienne alliance, Dieu demanda d'être serviteur des uns des autres. Ce n'est pas le langage de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on avait quoi? Des esclaves. Il y avait les patriarches, il y avait les boss, il y avait ceux qui renaient. Hein? C'était patriarcal. Mais dans la nouvelle alliance, wow! 100 fois le mot l'Eléon, vous le savez, je le dis tout le temps quand je suis en avant, 100 fois le nouveau l'Eléon, il paraît dans le Nouveau Testament, il est traduit par 4 mots français, les uns les autres. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Prenez les impératifs des uns des autres dans le Nouveau Testament, vous allez tomber sur le dos. Comment que Dieu voit ça important d'être serviteurs les uns les autres. Hommes et femmes, être des serviteurs les uns les autres. Un méfait. Vous savez, le mot que j'ai joué avec un peu en commençant, là, mais vous savez, le mot diac, ça n'existe pas dans le fond. C'est une translittération du grec. C'est serviteur. C'est serviteur et servante. Serviteur. Puis même, c'est toujours au masculin serviteur, parce que le mot diaconès n'existait pas au 1er siècle. Il est venu au 4e siècle, ce mot-là. C'est un mot inventé par la hiérarchie catholique ou de l'époque. Fait que, dans le fond, le masculin est utilisé pour les femmes et les hommes. Un peu comme un document légal qui dit au début. Le masculin, comment on dit ça? Et vice-versa. On a un verbe. Je sers, tu sers, il sert, nous servons. Diaconéa, 34 fois, là, c'était le nom. Servir. Puis, il y a l'identité, là, serviteur. Le diaconéa, c'est celui qu'on dit souvent, là. Ah, diaconéa. Mais comprenons. Et je les ai mis là, pas pour que vous appreniez ça par cœur. Je ne veux pas vous écœurer avec le grec. Là. Je veux vous faire réaliser que ça, c'est des concepts inventés par les religions, tricotés par les hommes. Les traductions ont décidé tout simplement d'au lieu de mettre serviteur, ils ont mis ministère, ils ont mis diac, ils ont mis diaconès. Mais derrière ces mots-là, c'est des servantes et des serviteurs de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin, comme Église, de savoir qui nous sommes pour être capable d'accomplir cette commission comme Église. Mise en œuvre du service de Dieu et des autres. Si je vous dirais que Actes 1 à 6, le mot diac n'est même pas là. Il n'est pas là. On a là une situation grave, et là, on dit, on va cesser le murmure à cause de certaines injustices. Oui, oui, oui. Et là, on choisit des hommes spécifiquement, et ça s'adresse au problème, parce qu'il y a de la sagesse dans ça. Ils ramassent des biens, ils prennent l'argent et mettent ça au pied des apôtres. Ensuite, servir d'abord puis distribuer selon les besoins. À quelque part, frères et sœurs, la mise en œuvre au service de Dieu et les autres, C'est un ministère de miséricorde que nous exerçons les uns envers les autres. C'est un ministère de miséricorde. Nous démontrons l'amour pour les autres en étant serviteurs des uns des autres. Paul est un diacre. Phobé est un diacre. Et je pourrais vous en nommer une liste. Jésus est appelé un diacre aussi. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour être serviteur, diacre. À quelque part, il faut savoir ensemble que tous les ministères de la Nouvelle Alliance sont des diaconies. J'aurais dû mettre service. Mais... C'est parce qu'on est tellement ancré dans le mot « diacre » qu'on a perdu son vrai sens. Qu'est-ce qui fait le service de miséricorde différent d'un ou de l'autre? Parce qu'on peut se poser la question. Ouais, maintenant que je suis une servante, maintenant que je suis un serviteur, où est-ce que je vais être? Bien, dépendant de votre don. La spécialisation des services suivant les dons reçus. Et ça mène à une autre étude sur le corps. Où est ma place dans le corps? C'est quoi le don ou les dons que Dieu nous a donnés, vous a donnés? Pourquoi? Pour en prendre dans le garde-robe, en dessous du lit chez nous tout seul, les dons sont toujours donnés pour les autres, jamais pour nous-mêmes. Tout le temps pour les autres. Le serviteur et les servantes dans la Nouvelle Alliance mettent à la disposition de Dieu leurs dons pour l'utilité commune. Ensemble, nous visons des buts ensemble. Et ma capacité, mon énergie, elle est orientée vers le plus grand bien de l'Église. Pas rien que mon bien à moi. Parce qu'on est une équipe ensemble en train de servir Dieu. Très important. 6. Prêtre et prêtresse. Prêtre et prêtresse qui exercent leur don dans l'Église. 1 Pierre 4, 10 et 11. Les diverses grâces de Dieu. Administrer ces diverses grâces de Dieu, si quelqu'un parle, qui reste entre les deux couverts de la Bible, puis si quelqu'un rend un service, mais là, il y a le mot ministère dans votre traduction, mais c'est le mot service qu'il y a derrière ça. Si quelqu'un rend un service, c'est selon la force que Dieu vous a donnée, le don que Dieu vous a donné. Pourquoi? Afin que Dieu soit glorifié. Dieu ne vous demandera pas de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable. Dieu est équipe celui qui envoie ou celle qui envoie. Très important. Prêtres et prêtresses ont une vie de prière. J'ai pris juste ce texte-là. J'ai présumé que je n'étais pas d'accord. On voit Marie et les femmes dans la prière avec les apôtres. Ils sont dans la prière. Une vie de prière. Nourrir une vie de prière. Pourquoi? Parce qu'on est des servantes et des serviteurs de Dieu. On est de ceux qui sont en train de faire une œuvre, non pas physique, mais spirituelle. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'ensemble, on met la main à la charrue. Prêtres et prêtresses offrent à Dieu des sacrifices de louange. Dieu reçoit l'adoration de toutes ses servantes et ses serviteurs. Dieu est un Dieu qui veut être adoré, loué par les hommes et les femmes dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que vous êtes des prêtres et des prêtresses pour Dieu. Prêtres et prêtresses pour Dieu vivent une vie remplie de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que nous avons été créés en Jésus-Christ, Éphésiens 2:10. Pour marcher, c'est le mot original, c'est marcher dans les bonnes œuvres, ensemble. Et ensemble, on marche à la gloire de Dieu. Notre vrai défi, dans tout ce qu'on va vivre dans les prochains mois, la pire catastrophe, c'est la mauvaise personne à la mauvaise place. C'est la régression. on ne grandit pas, on rapetisse. L'autre défi, c'est la mauvaise personne à la bonne place. Ça, c'est de la frustration. Soyons sages. La bonne personne à la mauvaise place, bien ça, c'est de la confusion. Pensez en ça. Parce que vous, serviteurs et servantes de Dieu, vous allez avec chacun aller vers l'avant pour Dieu. On va avoir une reconstruction spirituelle qui va se faire devant vos yeux. Et vous avez le privilège, comme servantes et serviteurs, de participer à cette croissance, à cette vision d'aller dans toutes les nations. L'autre défi, c'est la bonne personne à la bonne place. Ça progresse. Est-ce que vous priez pour la direction de l'Église? Est-ce que vous priez que le Seigneur révèle les cœurs de chacun dans la réflexion, dans la prière? Et j'ai dit il y a quelques mois, est-ce que vous avez rencontré les anciens en formation? À vous poser des questions à ces gens-là, les avez-vous examinés la manière qu'ils marchent parmi le peuple de Dieu? Est-ce que c'est des gens comme un éléphant d'un magasin de porcelaine hein, qui marchent parmi le peuple de Dieu? Ou c'est des gens qui transpirent l'appel de Dieu? Acte 20 est clair. Le Saint-Esprit va susciter parmi vous des hommes dans la direction spirituelle. Et nous avons le privilège, hommes et femmes, de participer à discerner ensemble dans la prière, avec discernement, la direction spirituelle de l'Assemblée du Cap. Les bonnes personnes aux bonnes places, c'est la multiplication. Vous savez pourquoi? Vous savez, vous pouvez citer la Bible en envers, connaître tous les mystères de Dieu, avoir le grec sur le bout des doigts, avoir la tête remplie au bout, que tu sais tout, mais le cœur n'est pas avec les hommes. Le cœur est détaché de la tête. Des hommes et des femmes de cœur que ça prend. Qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. Qui ont à cœur d'être des outils des mains de Dieu pour annoncer cette bonne nouvelle que nous avons. De faire avancer l'Assemblée chrétienne du camp. D'être un flambeau. Relever l'honneur du Seigneur. Relever la gloire du Seigneur parmi nous. Hommes et femmes, on a besoin de cela. C'est ce que je fais avec le temps, moi. C'est la grâce. J'essaie de l'échanger trois fois, ça. Il dit, vas-tu finir avec ça? Les femmes sont des disciples du Seigneur Jésus. Là, il dit, Michel, pourquoi tu écris ça? On le sait tout, ça. Placez-vous au premier siècle. Placez-vous dans un contexte judaïque. Placez-vous dans un contexte des pharisiens et des sadducéens. Placez-vous dans un contexte là où ce que les femmes... Hey, les Juifs se levaient le matin et disaient, il y avait une prière qui disait, pas tous les Juifs, mais les pharisiens surtout, on lit ça dans Edersheim, qui disait, merci mon Dieu que je ne suis pas un non-juif, merci mon Dieu pour le pain qui sort de la terre, puis merci mon Dieu que je ne suis pas une femme. C'était très populaire, cette prière-là. L'Évangile de Jésus-Christ provoque une rupture avec la conception traditionnelle des relations entre les hommes et les femmes, tant en Israël que dans le monde païen. C'est une grande révolution. Les hommes et les femmes, des prêtres et des prêtresses, qui peuvent articuler des louanges à Dieu, qui peuvent témoigner leur sauveur, comme les sept filles de Philippe qui prophétisaient, qui peuvent arriver puis comprendre le système de l'Évangile comme il faut au point de le transmettre. Alors, c'est extraordinaire. La place reconnue aux femmes dans le Nouveau Testament est remarquable, contrairement aux usages. Jésus ne craignait pas d'avoir des femmes parmi ses disciples. C'est cette dernière phrase que j'ai de faire. À l'Assemblée du Cap, ne craignons pas d'avoir des femmes servantes de Dieu. Eux qui sont des disciples du Seigneur Jésus. Et mes amis, on est rendu là. Servir ensemble le Maître, hommes et femmes, être une équipe solide, avançant et proclamant la bonne nouvelle. Je vais terminer là, on va prier. Alors, j'invite ceux qui voudraient avoir plus de détails sur ce que je viens de dire, j'ai 4 pages de notes là, je vous invite à en prendre. On prie. Seigneur Dieu, dans peu de temps, Seigneur, on a mis la table à une réflexion spirituelle pour notre assemblée. Une vision, Seigneur, qui va au-delà des coutumes. Mais Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que les traditions n'annulent pas la parole de Dieu. C'est notre prière. Aide-nous, Seigneur, à rester accrochés à toi. Aide-nous à être à la bonne place, chacun de nous. Hommes et femmes. Aide-nous, Seigneur, à vivre notre vie spirituelle pleinement ensemble et ensemble, Seigneur Dieu, avancer sous ta bannière pour ta gloire. Merci pour cet ensemble ce matin, Seigneur, puis bénis ta parole dans nos cœurs à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci de votre patience.